En direct de Montréal, vous écoutez Québécois.
Salut Gab, ça va bien pour
toi? Ben ça va pas pire, c'est pas pire. Épisode 31 aujourd'hui, déjà, c'est quasiment dur à croire.
Le dernier avant le début des élections.
Le dernier avant le début des élections, puis là on en parlera plus tard, mais on a quand même, on vous prépare quelque chose assez, je pense assez spécial, assez intéressant. Je pense que ça va ajouter un peu de dynamisme dans ce qu'on fait. Puis si on pense à ce qu'on a fait les dernières semaines, on a suscité un peu de débat sur notre page Facebook, surtout, j'ai aimé ça, les gens on semblait être intéressé par ce qu'on avait à dire ou à ne pas dire. C'est le fun, j'aime ça. Là. J'aime ça quand ça débat, j'aime ça comme quand les gens s'ostinent. Fait que ça, espérons que ça va continuer pour le futur.
Et c'est sûr que si vous venez mettre un commentaire, moi, personnellement, j'adore vous lire, mais sachez que j'ai pas de vie et que je vais vous répondre.
et je peux confirmer que c'est vrai, Charles, il n'y a pas de vie, il va vous répondre.
Alors, préparez-vous à recevoir une réponse aussi. Hein? Fait que ouais. Si on n'est pas d'accord, je veux quand même vous relancer. Puis on pourra bâtir un échange à partir de là. Donc, si vous recherchez un échange, peut-être pas musclé, mais quand même soutenu, ben vous avez trouvé votre homme.
Ouais. Puis vous avez, pour ceux qui sont habitués, vous savez qu'on laisse pas les commentaires passer. Surtout quand c'est un peu n'importe quoi. On revient à la charge. Ça, c'est sûr. Mais cette semaine, on a encore un peu de controverse à discuter. On va peut-être commencer rapidement avec Hydro-Québec. Charles, je pense que tu nous as apporté un sujet assez intéressant. Peux-tu nous faire un peu le tour de la question?
Ça fait un peu écho à ce dont on discutait il y a deux semaines avec la SAQ. Là, c'est de savoir, est-ce que l'intervention du gouvernement à l'économie se solde par des conséquences positives, négatives ou un mélange des deux? Puis, dans le cas d'Hydro-Québec, là, ça fait longtemps qu'on a ce débat-là, à savoir, est-ce que c'est correct de politiser cette compagnie-là? Parce qu'Hydro-Québec, c'est une compagnie incorporée dont l'actionnaire unique, au fond, est le gouvernement du Québec. Donc, à quel point est-ce qu'on peut les influencer dans leurs projets ou est-ce qu'on devrait plutôt les laisser plus autonomes? C'est tout le débat qui est revenu à la charge au courant de la semaine dans une espèce de vaudeville avec le ministre de l'Énergie, M. Couillard, et le PDG d'Hydro-Québec. Ça a enflammé les médias qui sont lâchés lousses là-dessus. Mm. Les partis d'opposition ont dû commenter aussi. Tout ça, c'est à cause d'un autre projet éolien dans le nord du Québec, là, particulièrement dans une communauté Innu. Puis là, c'est de savoir, est-ce que c'était correct? Parce que là, au fond, ce projet-là était quand même un gros projet. Là. C'était comme une ferme à vent, si on veut. Là. Apparemment, ils vendent beaucoup dans ce coin-là. Et ils voulaient bâtir un parc éolien. Et Hydro-Québec aurait acheté l'électricité produite par cette ferme à vent-là. Ça aurait créé près de 400 emplois. Bon, pas mal de monde sur la Rive-Nord qui était assez emballé. Tout le monde, sauf le PDG d'Hydro-Québec, qui a fait une sortie dans les médias en disant que c'était un projet qui était déficitaire. À peu près comme tout ce que fait Hydro-Québec dans l'éolien. Et ça part, là, tu sais, aujourd'hui, là, on récolte les problèmes qui ont été semés par l'administration Charest en 2003. Ça fait à peu près 15 ans qu'au Québec, il y a une espèce de plan pour favoriser les énergies renouvelables. Et tous les gouvernements qui se sont succédés, là, Charest, Marois, puis Couillard, ont tous forcé Hydro-Québec à se lancer dans un secteur de l'économie qui n'était pas nécessairement rentable. Et on se disait, bon, ben ça va à long terme être payant parce qu'on va développer une expertise là-dedans. Mais au final, on a fait ça en même temps que les États-Unis ont peaufiné leur méthode d'extraction des gaz de schiste. Ça a fait baisser les prix de l'énergie. Et au final, comparativement, notre hydroélectricité était plus chère que ce que les autres pays pouvaient avoir. Donc, les exportations étaient plus difficiles. Donc, au final, la vérificatrice générale du Québec conclut que l'éolien, c'est rien que de la perte. Dans son dernier rapport, là, c'était vraiment assez accablant. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour l'éolien au Québec. Si je pense que j'avais les chiffres, là, le projet en question dans la réserve Innu serait une perte d'à peu près 1,5 milliard dans les livres d'Hydro-Québec. Ça, évidemment, ça se finance par nous autres. Là. C'est toutes nous autres qui payent.
C'est une perte sur combien de temps? Un an?
Tu vois ici, du côté d'Hydro-Québec, on a mentionné que... J'ai la référence, là, entraînerait des pertes de 1,5 à 2 milliards sur 25 ans pour la société d'État. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'argent avec ça.
Sur 25 ans, si on prend en considération que le marché reste le même.
C'est ça. C'est ça, les hypothèses.
Mm-hmm. Grosse hypothèse, ça, quand même. Parce qu'on sait très bien que le marché ne restera pas le même. Il va soit aller en mieux ou en pire.
Ah non, c'est sûr.
C'est clair que ça ne restera pas stable, surtout quand on sait que tout pointe vers des changements climatiques et des changements en termes de besoins énergétiques assez drastiques dans les prochaines années, peut-être même pas jusqu'à 25 ans. Fait que ça pourrait influencer ça aussi, mais ça, j'imagine, ils n'en parlent pas.
Ben, c'est-à-dire que quand on regarde, parce que Hydro-Québec, ils publient beaucoup d'informations, comme c'est une société incorporée, ils ont une obligation de publier des éléments. On en aurait plus s'ils étaient publics, mais ils sont privés.
Ils sont privés. Comment ça peut être privé? C'est une société du peuple.
Oui, mais il y a quand même des informations auxquelles on n'a pas accès, puis auxquelles on aurait accès. Ouais, c'est une société publique qui se rembourse et est sujettie aux IFRS.
Tu veux dire public dans le sens que les actions sont échangées à la bourse?
C'est ça, qui se rembourse. Ce serait plus transparent que ce qu'on a présentement, mais on a quand même accès à une certaine quantité d'informations. Et on a, par exemple, le rapport d'approvisionnement. Ça, c'est comme un peu les prévisions pour les 10 prochaines années. Et Hydro-Québec estime que, dans l'ensemble, pour le secteur éolien, entre 2017 et 2026, l'éolien va représenter des pertes à peu près 7 milliards, qui vont évidemment être absorbées par les clients réguliers qui payent leur bill à chaque mois. Fait que ça, c'est de savoir, c'est un coût assez important à quoi on renonce pour financer ces projets-là. Puis ce 7 quelques milliards-là de pertes dans l'éolien, il s'ajoute au calcul de la vérificatrice générale du Québec, là, Mme Leclerc, qui, elle, arrive à un chiffre de perte de 2,5 milliards pour des coûts supplémentaires qui sont survenus de 2009 à 2016 pour l'éolien. Fait qu'on est quasiment rendu à 10 milliards de pertes de 2009 à 2026 pour le secteur éolien seulement. Et tout ça, ça avait commencé en 2003 avec Jean Charest, où on a forcé la société d'État à aller dans ce domaine-là, parce qu'on est l'actionnaire unique, donc on est propriétaire d'Hydro-Québec, on leur a dit, vous faites ça. C'était, à mon avis, c'est mon affaire personnelle, là, c'était surtout politique. C'est que ça paraît bien d'être vert, oui, de favoriser des énergies renouvelables, mais au final, ça s'est révélé être une très mauvaise décision économique. Ça, c'est mon point de vue.
Mais on est déjà, Hydro-Québec, c'est déjà une compagnie qui subventionne à nos besoins en utilisant de l'énergie renouvelable, non? On n'a pas de charbon, on ne fait pas de nucléaire. On est, c'est dans le nom, là. C'est Hydro-Québec. L'énergie vient de l'eau. Ça vient de l'eau qui pousse les turbines. Fait que c'est pas mal renouvelable.
Oh non, ça, c'est sûr que le Québec n'a pas à se plaindre en matière d'énergie renouvelable. C'est
surtout si on se compare aux
grands avantages concurrentiels.
Si on se compare aux États-Unis, on est vraiment en avant d'eux autres au point de vue d'énergie verte. Là, ça se compare même pas.
Ça, c'est évident, mais au fond, les partis politiques rivalisent d'ingéniosité pour se positionner de façon plus vertueuse que les autres, en disant « Regardez comment nous, on protège bien l'environnement. » Et ça amène une espèce de mise en abîme où chacun se garoche, mais on vérifie pas si ça fait du sens d'un point de vue économique. Je pense Hydro-Québec, l'éolien, ça s'est révélé être une très mauvaise idée. Aucun parti politique a le courage présentement de dire « Hey, on pourrait-tu me tirer à plug là-dessus? »
Je pense pas que c'est une mauvaise idée, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Je pense qu'on aurait pu prendre... Tu sais, mettons, là, on sait, on a perdu quoi déjà, là? Ça tourne quoi? Ça,
t'avais 17, quand on regarde 17, le dernier rapport de la vérificatrice générale, là, 10 milliards. Pas un chiffre, 10 milliards sur 15 ans.
Attends, OK? 10 milliards qu'on a gaspillés là-dessus. On aurait pu prendre peut-être 100 millions, 200 millions de ces 10 milliards-là, créer une charte d'études, faire ça comme il faut avec des scientifiques puis des gens qui savent ce qu'ils font, puis que dans l'espace de 5-6 ans, on aurait peut-être un produit viable. Mais non, on a décidé... On a décidé de faire ça comme tous les hosties de projets qu'on a au Québec, qu'on aime tout ça, gaspiller de l'argent. Moi, ça me fait penser au stade olympique, là, que bon, ça a pris 30 ans à finir de payer cette affaire-là. Fait que je pense que c'est un autre exemple de mauvaise gestion. Moi, je pense que l'idée est bonne. Moi, je pense que l'idée est toujours bonne. Mais l'exécution de cette idée-là, c'est là que ça... On dirait que ça regarde mal. C'est pas bon, là. Parce que si on dit que c'est le gouvernement qui a été responsable de donner à Hydro-Québec la directive de s'engager dans ça, bien, on peut clairement blâmer le gouvernement pour le cafouillage puis le coût que ça nous a coûté. Parce que ces 10 milliards-là, on aurait pu les mettre ailleurs. Comme, je sais pas, système de santé peut-être, système d'éducation, tu sais.
Bien, effectivement, c'est toujours un coût de renonciation. Et le problème, c'est que les organisations publiques vont jamais dépenser l'argent des autres avec autant de soin que si c'était leur argent. Puis Hydro-Québec savent qu'ils sont en position de monopole sur le marché de l'énergie et que s'ils se plantent, par exemple avec l'éolien, ils peuvent simplement augmenter le coût de l'électricité pour l'ensemble des contribuables et ils vont se refinancer comme ça. Et c'est d'ailleurs la conclusion du rapport de la vérificatrice générale du Québec qui dit que toutes ces pertes-là ont été financées à même les différentes hausses qu'on a eues dans les dernières années. Donc, en réalité, vous payez tous collectivement votre électricité trop cher à cause de, à mon avis, ce qui est de l'opportunisme politique et non pas un projet qui était véritablement viable économiquement. On paye notre électricité plus cher qu'on l'aurait payé autrement si on ne s'était pas garoché tête baissée dans l'éolien.
Mm-hmm. Absolument.
Ça, c'est intéressant. Et comme Hydro-Québec est en position de monopole, ils ont le beau jeu de faire à peu près ce qu'ils veulent. Puis ça, j'avais des chiffres assez intéressants là-dessus sur qui s'approvisionne comment. Et au Québec, on est de loin la province qui est la plus dépendante de l'électricité, mettons, sous forme d'Hydro-Québec.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Au Québec, 76% des ménages utilisent un système de chauffage électrique, alors que dans le reste du Canada, c'est plus autour de 35% en moyenne. Donc, ce qui fait que ici, si Hydro-Québec prend une décision, quasiment tout le monde embarque. T'sais, on n'a pas le choix de suivre parce que la majorité des gens n'ont qu'un système électrique et Hydro-Québec met des contraintes assez avancées. Peut-être qu'on y reviendra, là, c'est un peu hors sujet, mais c'est très difficile d'avoir des systèmes hybrides qui ont des pénalités assez importantes. Donc, tout le système d'approvisionnement énergétique est fait de telle sorte que les gens n'ont pas vraiment le choix de confier l'ensemble de leur système à Hydro.
Et système hybride, de quelle façon? Hybride au point de vue de comment tu chauffes ta maison ou comment tu vas charger ton électricité?
Comment tu chauffes? Par exemple, dans d'autres provinces, il y a beaucoup de systèmes hybrides où, par exemple, il va avoir de l'électricité pour les appareils électroniques, les lumières, mais que le chauffage, lui, va être au gaz.
OK, mais on fait pas ça à Montréal. Il y a plein de monde au gaz à Montréal.
Quand je regarde les statistiques qui nous viennent de SCATCAN, ça s'appelle l'enquête sur les ménages et l'environnement qu'ils font à chaque année, et on montre qu'au Québec, il y a seulement 7% des gens qui chauffent au gaz, alors que dans le reste des provinces, il y en a beaucoup plus.
Mais la grande différence, je te dirais, c'est qu'au Québec, le gaz coûte plus cher que l'électricité. C'est si on se compare en Amérique du Nord, et même si on va au-delà de l'Amérique du Nord, si on compare avec l'Europe et l'Afrique, le coût de l'électricité au Québec est très bas. Fait que ça pourrait peut-être expliquer pourquoi autant de gens décident de chauffer avec de l'électricité, parce que c'est le plus cheap de toutes les solutions. Là, c'est clair que si on chauffe à l'huile en ce moment, c'est pas donné. Puis si tu chauffes au bois, ben, y a bien des restrictions dans plusieurs villes pour des raisons de contamination et de polluants. On veut plus qu'on chauffe au bois. À Montréal, on n'a plus le droit. Il reste l'électricité. Puis honnêtement, pour avoir vécu dans d'autres pays puis d'autres provinces, on est quand même chanceux d'un point de vue de coût de notre électricité, mais ça me met quand même le feu au derrière quand je pense que ça pourrait être encore moins cher. T'sais, on a une société d'État, c'est notre société, puis on se fait baiser par notre propre société. C'est pas acceptable. tout ça pour des fins politiques, parce qu'il y a un parti qui veut mieux paraître. En fait, même pas un parti, deux partis, parce que souvent, les gens, le PQ, les libéraux, sont assez souvent de connivence sur ces choses-là. Puis je suis sûr que Québec solidaire, ça leur ferait plaisir, eux autres aussi, de passer à l'île éolienne. Ils aimeraient ça, là, qu'on soit encore plus vert que vert. Mais les seuls, peut-être, dans ce niveau-là, qui seraient intéressés, c'est peut-être la CAQ. Eux autres, là, fiscalement, je pense qu'il y aurait peut-être leur mot à dire là-dedans.
Oui, bien, au fond, c'est ça le point. C'est est-ce qu'on veut que Hydro-Québec soit une compagnie qui se gère de façon autonome et qui est un petit peu, à cet égard-là, assujettie aux lois du marché? Ou bien on veut que les gouvernements en place, hein, qui changent assez régulièrement, il y a souvent une chaise musicale qui se fait, ouais, que ces grandes orientations stratégiques soient modifiées selon ce qui, au moment des élections, est populaire ou non. Moi, ça m'apparaît être une stratégie qui garantit de produire des résultats indésirables, et c'est malheureusement le Québec, ouais, qui paye.
Je vais mettre
une publicité de Y, pas une publicité, une caricature de... du caricaturiste Y, là, que je trouvais bien drôle. Ouais. Et on y voit, là, je pense que c'était Couillard devant une éolienne sur laquelle un drapeau flotte, puis c'est écrit « Paye le cave
». Ça en dit long.
et c'est un petit peu ça le point. C'est-à-dire qu'on assume l'échec de Hydro-Québec d'avoir un modèle économique viable pour le projet éolien. Et j'ai l'impression qu'en grande partie, cet échec-là découle de toute la pression politique qui a été mise sur Hydro-Québec.
Ouais.
Quand on instrumentalise une organisation comme celle-là à des fins politiques, ben ça fait en sorte qu'on vient, à cause de considérations idéologiques, essayer de y faire contourner des impératifs de rentabilité qu'elle aurait autrement eu à respecter. Là, ça va, bon, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je suis pas fermé à l'idée. Si on me dit que l'éolien est un secteur stratégique à conserver pour l'avenir, c'est une position qui peut se défendre, mais à date, moi, je consulte le rapport de la vérificatrice générale du Québec qui va être en référence du podcast, et il n'y a rien de positif qui sort du secteur éolien. Et puis là, on voit le PLQ persister dans cette avenue-là et mettre de la pression sur le PDG d'Hydro, qui, on le rappelle, nommé par le gouvernement en place, pour qu'il se conforme et qu'il aille dans le... Au fond, moi, je le vois comme une forme d'interventionnisme politique pour l'idée de se taire, puis de juste dire, fais comme le parti dit, on est en élection, c'est pas le temps de niaiser. Et là, évidemment, en plus, pour ajouter du plaisir dans cette histoire-là, il y a aussi une considération avec la communauté Innu du nord du Québec qui, eux, considèrent que c'est un projet historique pour la réconciliation entre le Québec et les communautés Innu. Là, je pense qu'il y en a un petit peu en bas d'une dizaine là, qui sont impliqués là-dedans.
Parce que ça va leur donner des jobs puis du cash, genre?
C'est bien des jobs puis bien du cash. Et eux voient ça comme un projet mobilisateur pour leur communauté. Puis tu dis, oui, je suis d'accord qu'effectivement, mais à quel prix? C'est ça un petit peu le point. Puis est-ce qu'on est prêt à payer pour ça collectivement?
Mais c'est ça, peut-être qu'on l'est. Hein? Ça, c'est une autre chose. OK, fine. Là, on sait qu'il y a un coût. Là, en ce moment, ça coûte plus cher à produire que ça vaut la peine. Mais est-ce que, comme société, est-ce que les Québécois qui se rendent voter cet automne, est-ce que pour eux, ce coût-là en vaut la chandelle? Ou est-ce que l'impact environnemental que ça pourrait avoir à long terme pour nous, pour notre économie, est-ce que ça vaut le coup? C'est possible que les Québécois pensent ça. Je pense qu'on va le savoir globalement. C'est au mois d'octobre, à la fin octobre, l'élection. on pourra répondre à cette question-là à ce moment-là. Mais... moi, je pense pas que l'éolien, c'est nécessairement une mauvaise idée. Je veux dire, c'est l'exécution. On aurait pu se mettre partenaire avec l'Hollande, par exemple, ou on aurait pu trouver... Il y a plein d'autres compagnies qui ont réussi. Ça se fait des contrats, là. Je comprends pas. C'est vraiment mal fait. Vraiment mal fait. Très décevant,
oui,
en fait.
Les éoliens, ça fait longtemps qu'on a fait des victimes collatérales de ça, où on a saisi des terres agricoles avec... Puis ça, d'ailleurs, c'était des très mauvais deals. Moi, je regardais les contrats qui ont été signés entre le gouvernement puis certains développeurs privés, là, comme pour faire des fermes d'éoliennes. Il y avait ce qu'on appelle un bail amphithéotique qui consiste à concéder les droits de gestion les droits sur les fruits durant la durée de vie utile des éoliennes, soit 25 ans. Et ensuite, le gouvernement récupère l'éolienne dans un état de désuétude avancée. Donc, au final, c'est juste un très mauvais deal pour nous autres. C'est nous qui assumons tout le risque financier de long terme. Wow. Donc, l'éolien, là, ça semble être trop politisé pour qu'on puisse vraiment en discuter. Le Parti libéral persiste dans cette avenue-là. François Legault a dit que s'il est élu, il va scraper ce projet-là, un peu comme Doug Ford a fait en Ontario. Lisée n'est pas contre, mais il veut que les gens collaborent puis regardent les coûts. Fait qu'au final, il dit pas grand-chose.
Status quo. Ça sonne comme le status quo si on lit entre les lignes.
Ouais, c'est ça. Il décide de pas se mouiller. Un petit peu comme Justin Trudeau a souvent fait par le passé. Là. Peut-être qu'il attend d'avoir plus d'informations. On va avoir... Une importante remise d'informations du ministère des Finances la semaine prochaine là, sur l'état des finances publiques. Donc, peut-être qu'il attend ça avant de se prononcer. Mais, tu sais, de prime abord, c'est vrai que c'est un projet important pour cette communauté-là. Puis, je pense que c'était l'épisode 3 qu'on a fait sur les communautés autochtones où, personnellement, c'était la position que j'avançais, que c'était important que les Premières Nations prennent leur place dans l'économie nationale. Puissent faire du commerce, que les jeunes aient un avenir, qu'ils puissent travailler puis s'accomplir de cette façon-là. C'est un peu un dilemme difficile, mais présentement, c'est comme si c'est tellement politisé que ça devient difficile d'avoir un débat constructif autour d'Hydro-Québec.
Bon, mesdames et messieurs, on vous remercie encore une fois d'être à l'écoute de Québécois, ça nous fait plaisir. Je vous rappelle, si vous voulez nous faire plaisir, vous aussi, vous pouvez venir discuter avec nous sur notre page Facebook Québécois Balado. Ça va nous faire plaisir de vous parler. On aime ça quand vous chialez, vous autres aussi. Puis, n'ayez pas peur de nous challenger. On aime ça. On va faire une petite discussion, puis ça va nous faire plaisir. Fait que, n'oubliez pas aussi, si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous laisser des étoiles sur la page Facebook ou sur les sites comme iTunes, Google Play, Stitcher, tous les bons diffuseurs de podcasts. Ça nous aide énormément si vous mettez des étoiles et des commentaires parce que ça aide les autres gens à découvrir Québécois. Je vous rappelle québécois.ca pour notre site web, Québécois Balado sur Facebook. À la semaine prochaine. Au revoir, Charles.
Salut, là.